Je vous invite à suivre l'émission Dialogue entre Congolais, présentée par Jean-Claude Ntumba Kamanga.
Bonsoir, Dialogue entre Congolais, ce soir c'est exceptionnel, nous abordons deux sujets, nous vous avions annoncé les fosses communes, nous en parlons, mais dans la deuxième partie de cette émission, d'abord le crash d'avion survenu ce soir à Goma, au nord Kivu, un décès neuf de la compagnie aérienne Ewabora. Des sources proches de la RVA parlent de 6 survivants. L'avion aurait à son bord environ 94 passagers. Comment réagissent les autorités politiques sur ce crash d'avion, le 9e en RDC depuis l'année dernière? Vous suivrez le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, il est de la majorité présidentielle, et Martin Moukonkole, député national de l'opposition, membre de la plateforme ODER. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais.
Vous voulez participer à cette émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Première partie de ce dialogue entre Congolais, il s'agit bien du crash de l'avion d'Ewabora. Le DC-9 s'est écrasé cet après-midi, peu après son décollage à Birere, un quartier populeux de Goma, au nord Kivu. Selon la régie des voies aériennes RVA, l'avion décollait de Goma vers Kisangani avec 94 passagers. Quelques rescapés sont sortis de l'avion en feu, selon des témoignages. Notre confrère Jules Ngala était sur les lieux. Il intervenait dans nos journaux de ce soir. Il s'entretient avec Mimi Ngumba Mulongo.
Jules Ngala, dites-nous, vous qui venez du lieu de l'accident, quelle est la situation sur les lieux de ce crash à la tombée de la nuit?
Tout à fait, la nuit est à peine tombée sur Goma. Jusqu'il y a quelques minutes, alors que je me trouvais encore sur le lieu du crash à Birere, les forces de sécurité venaient de quadriller tout le périmètre du lieu du crash. Et selon un responsable de l'un de ces services, c'est pour empêcher des pillages éventuels de la part des badauds et autres personnes incontrôlées. Et au même moment, sous la lumière des phares des véhicules, les quatre de la motocicle, la police locale et des secouristes de la Croix-Rouge de la RDC poursuivaient la fouille des décombres pour voir s'il pouvait y avoir quelques rescapés à sauver ou des corps des victimes éventuelles à remonter en surface.
Et qu'est-ce qu'on peut retenir du bilan?
Bon, écoutez, pour l'instant, pas encore de bilan officiel. Selon le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku Kaonga, que nous avons reçu ici dans nos studios à Goma, au moins 79 passagers étaient à bord et 6 membres d'équipage. Et puis, sur ce nombre, l'hôpital indien de la MONUC a tué dans un premier temps, 18 rescapés, dont 5 ont déjà regagné leur domicile après avoir eu des soins. 12 personnes rescapées, bien sûr, continuent de suivre des soins et malheureusement, hélas, on déplore une victime. Ça, c'est du côté des passagers qui étaient dans l'avion, mais il y a eu aussi, selon plusieurs sources, une centaine de personnes blessées au sol. Comme on dit en termes de dommages collatéraux par rapport au crash de l'avion. Vous le savez, c'est du simple fait que l'avion a fait crash dans un quartier très populeux de la ville. Il s'agit du quartier Birere, que ceux qui ont déjà visité la ville de Goma connaissent très bien.
Merci beaucoup, Jungala, pour toutes ces précisions.
Et voilà, donc nous remercions aussi Mimi Ngumba et Jules Ngala. Nous avons donc le gouverneur du Nord Kivu, Julien Paluku, bonsoir.
Bonsoir.
Oui, monsieur le gouverneur, est-ce qu'on peut connaître le dernier bilan de ce crash d'avion?
Oui, effectivement, il y a 5 minutes, je venais de terminer le tour de tous les hôpitaux. Jusqu'à maintenant, nous avons 19 morts qui sont recensés et 76 blessés. Et c'est le bilan provisoire que nous pouvons livrer à l'opinion pour l'instant. Mais comme l'as-tu bien dit, Jimgala, nous avons déployé des équipes au niveau de Dibié d'Idram. Un groupe électrogène a été dépêché sur les lieux pour devoir éclairer les environs de manière à poursuivre les opérations de recensement de tous ces corps qui peuvent encore se retrouver dans les décombres. Et que donc, jusqu'à maintenant, nous ne pouvons que donner le chiffre des 19 corps qu'on a retrouvés et 76 blessés qui sont éparpillés dans les hôpitaux de la ville de Goma.
Oui, quand vous parlez de 19 morts et 76 blessés, donc, est-ce que vous voulez, on peut préciser s'il s'agit des morts parmi les passagers ou c'est parmi la population du lieu où l'avion s'est écrasé?
Alors, la grande difficulté que nous avons maintenant, c'est que on ne peut pas établir une ligne de démarcation entre les morts qui étaient dans l'avion et la population sur qui l'avion est tombé. C'est là la grande difficulté. C'est pourquoi les opérations continuent. Nous avons dépêché notre ministre professeur de la Santé dans les autres hôpitaux pour établir un premier rapport. Mais je crois que c'est cette nuit où nous aurons cette démarcation entre les morts qui étaient à bord de l'avion et les morts sur qui l'avion est tombé. Mais présentement, nous ne pouvons pas vraiment vous donner des chiffres exacts par rapport à cette différenciation des morts.
Voilà, là c'est donc le gouverneur du Nord Kivu. Comme nous vous l'avons annoncé, nous avons dans cette émission Martin Mukonkole. Vous êtes député national de l'opposition, membre de la plateforme ODR. D'abord, votre première réaction, nous avons appris d'abord qu'au niveau de l'Assemblée nationale, vous avez même suspendu la plénière d'aujourd'hui, donc à la suite de ce crash d'avion. Est-ce que vous confirmez cela?
Je commence par présenter les condoléances à toutes les familles qui venaient d'être encore une fois être frappées par cet événement des différents crashs que nous ne cessons jamais de déplorer dans notre pays. Il est vrai qu'on avait une grande plénière aujourd'hui, mais parce que nous sommes la représentation nationale, quand nous avions appris cette nouvelle, et nous avions suspendu toutes les activités, et on a mis en place une cellule de crise qui est en train de gérer les informations en provenance de Goma, afin que demain, je crois qu'il y aura déjà une position de l'Assemblée nationale à ce sujet. Parce que parmi nous, je crois, parmi ceux qui sont décédés dans cet avion, il n'y a pas seulement ceux qui sont ressortissants de Goma. Vous voyez, c'était un avion qui quittait Goma vers Kisangani et ça devait revenir ici à Kinshasa. Donc, c'est-à-dire que c'est la République qui est endeuillée. Et ça, nous n'avons jamais cessé de le déplorer. C'est quand même regrettable qu'on continue à endeuiller les familles de la RDC, surtout par cette, on peut appeler, par peut-être cette complicité du gouvernement qui ne sait pas vraiment donner des avis techniques par rapport aux avions et qui ne sait pas aussi aménager les aéroports, parce que si tout était aménagé, on n'arriverait pas à tout ce qui est arrivé aujourd'hui.
Et puisque vous vous attaquez au gouvernement, nous avons parmi les réactions reçues celle de Kapenda. Il nous écrit depuis Ouvira dans la province du Sud Kivu. Pour lui, ce énième crash prouve que le Parlement est impuissant. Selon lui, lors de l'accident survenu à Kinshasa, ici à Kinshasa, le Parlement a accepté le limogeage du ministre des Transports de l'époque, mais il n'y a pas eu de suivi au niveau des mesures pour éviter un autre accident. Qu'est-ce que vous répondez? Parce que vous êtes membre du Parlement.
Mais je crois que nous avions déjà donné à son temps là, notre point de vue. Et jusqu'à ces jours, même aujourd'hui, lors de l'intervention, nous avions déploré que les conclusions du crash de Kinshasa qui avait encore endeuillé la population congolaise, les conclusions ne soient jamais jusqu'à ces jours être annoncées et informées.
Et pourquoi c'est pas encore annoncé?
Nous avions toujours dit qu'il y a un problème. Plusieurs fois, l'Assemblée nationale a pris des recommandations. Ce sont des résolutions au niveau de l'Assemblée nationale qui sont des recommandations faites au niveau du gouvernement. Enfin, que le gouvernement qui a la gestion quotidienne des affaires de l'État puisse prendre des dispositions pour éviter tout ce que nous connaissons. Mais il est tout à fait regrettable de constater que nous avons un gouvernement qui ne prête pas oreille à tout ce qui est comme recommandation venant de l'Assemblée nationale. Nous l'avions décrié plus d'une fois. Même le président de l'Assemblée nationale l'avait déjà stigmatisé. C'est ainsi que pour cette fois-ci, nous sommes catégoriques et nous demandons que ce gouvernement qui ne sait pas prendre ses responsabilités face à la crise, face à la situation que notre population est en train de connaître, soit sanctionné de la manière la plus sévère. Voilà. Dans la mesure où c'est un gouvernement qui ne sait pas réellement prévoir et gérer et s'occuper de la sécurité des biens et de leur, et des personnes.
Voilà. Puisque nous avons un membre du gouvernement provincial au niveau de Nord Kivu, M. le gouverneur Julien Paluku, sur les causes de cet accident, est-ce que vous acceptez que la faute est due en fait à l'exécutif dont vous êtes membre au niveau provincial?
Moi, je crois que quand des accidents comme ça arrivent dans notre pays, nous devons être sincères envers nous-mêmes et surtout ne pas faire des récupérations politiques sur les morts congolaises. Donc, moi, je crois que c'est cela la première précision que je dois apporter. La deuxième, c'est que j'ai eu à rencontrer les pilotes parce que il y a 7 membres de l'équipage qui sont rescapés et que j'ai vu, que j'ai interrogé, qui ont clairement dit que lorsque l'avion venait de faire 300 mètres, il y a eu un coup ressenti à l'intérieur, un moteur du côté gauche a cédé. Et le pilote a tenté de freiner, mais tellement que l'avion était déjà dans une vitesse qui ne permettait plus que les freins puissent jouer leur rôle complètement, l'avion a fini sa course jusque dans les quartiers populaires de Birere. Donc je ne crois pas qu'on commence à parler d'une situation politique qui doit jouer son rôle dans les conditions où nous avons connu l'accident d'aujourd'hui, parce que les pilotes ont signalé effectivement qu'il y a une panne technique et que c'est un accident qui est survenu contre toute attente. Donc on ne doit pas aujourd'hui commencer à dire que c'est le gouvernement qui est responsable. Bien entendu, l'accident est arrivé. Personne ne peut souhaiter qu'il y ait des gens qui meurent. Mais au-delà des responsabilités du gouvernement, je crois que nous devons chercher des solutions de façon globale pour que notre espace aérien puisse connaître un assainissement, non pas seulement parce qu'il y a eu des accidents, mais parce que nous sommes dans un environnement où il faut des réflexions profondes par rapport à ce secteur aérien.
Oui, puisque vous avez abordé justement cet aspect de l'espace aérien, il y a une autre réaction, elle est de Claude qui nous écrit depuis Bukavu. Lui, selon lui, à voir comment les gros porteurs atterrissent et décollent de l'aéroport de Goma, d'aucuns pourraient s'attendre à ce genre de drame. Mais comme d'habitude en RDC, dit-il, les décideurs attendent les catastrophes pour regarder la réalité en face, à défaut de pouvoir dégager l'aéroport de Goma. Monsieur le gouverneur, je ne vous apprends rien. Après avoir fait un petit tour à Goma, je sais, et vous le savez très bien, la piste de Goma a connu des problèmes à la suite du volcan. Et d'après les experts, normalement, un avion de type DC-9 ne devrait pas atterrir ou décoller de l'aéroport de Goma. Qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus?
Oui, moi je crois que ce n'est pas la première fois que cet avion décolle de Goma. Il y a plusieurs avions qui décollent de Goma. Il y a TAA, il y a Ewabora, il y a Wimbigira à l'époque. Il est vrai aussi que la lave de 2000D a réduit la piste de Goma et qu'il faudrait des efforts supplémentaires pour devoir allonger la piste. Au niveau des Nations Unies, comme les Nations Unies utilisent cet aéroport, il y a eu des premiers travaux qui ont été exécuté sur une bretelle, mais sur la piste elle-même, il faudrait qu'il y ait d'autres efforts qui soient déployés.
C'est pourquoi c'est pas fait jusque-là? Pourquoi ce n'est pas fait jusque-là?
Oui, moi je crois que dans les budgets de l'État, on avait déjà intégré les aéroports à travers les pays, notamment celui de Goma, et j'estime que l'année n'est pas encore à sa fin. Nous attendions que le gouvernement, effectivement, puisse programmer cet aéroport de Goma. Et nous avons parlé avec tous les ministres qui nous ont certifié, effectivement, que l'aéroport de Goma a été programmé pour obtenir son rallonge jusqu'au kilométrage voulu comme d'autres aéroports internationaux.
Oui, voilà. Martin Mkonkole, vous avez parlé, vous avez accusé le gouvernement. Vous entendez le gouverneur Julien Paluku vous demande de ne pas faire de la récupération politique. Lui, il parle plutôt d'une panne technique.
Je crois que j'ai beaucoup de considérations envers le gouverneur Julien Paluku. Si il me parle de la panne technique, c'est là où je dégage la responsabilité et du gouvernement et de ceux qui étaient appelés à constater cette panne technique. Pourquoi ne pas demander que l'avion ne vole pas? Et quand il y a qui gère au quotidien le pays, c'est le gouvernement. Voilà dans quel sens moi j'implique la responsabilité du gouvernement. Il ne faut pas, quand il y a mort d'homme, que nous commençons à éviter de regarder la vérité en face.
Mais qu'est-ce que vous, vous avez fait parce que d'après les enquêtes, même au niveau de notre rédaction, le ciel congolais, il est l'un des plus dangereux normalement, maintenant avec le 9e crash au niveau de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale. Qu'est-ce que vous, en tant que parlementaire, qu'est-ce que vous avez fait pour pousser le gouvernement justement à améliorer justement le trafic aérien ou du moins l'espace?
Vous savez, le rôle d'un parlementaire, c'est de voter les lois et c'est de contrôler le gouvernement et les services publics de l'État.
Est-ce que vous contrôlez, effectivement?
C'est ça le problème. Nous profitons pour dénoncer devant les micros de Radio Okapi qu'il y a un problème au niveau du travail de contrôle parlementaire au niveau de l'Assemblée nationale.
Mais est-ce que ça suffit de dénoncer?
Vraiment, nous le faisons, mais comprenez qu'à un certain moment, le gouvernement est ici de la majorité et le bureau de l'Assemblée nationale est aussi ici de la majorité. À un certain moment, il y a une certaine complicité dans les cadres de leurs intérêts. Ils essaient de bloquer notre peuple. C'est comme ça que nous n'avons jamais cessé de dénoncer. Aussi longtemps, nous reconnaissons que nous avons les mandats de notre peuple et nous ne pouvons jamais sacrifier le peuple par rapport à ce qui est en train de se faire. Ce qui est arrivé aujourd'hui, c'est déplorable. On ne peut jamais éviter la vérité, surtout quand il y a mort d'homme. Nous disons que la responsabilité du gouvernement qui a en charge de donner l'autorisation de vol de tous les avions et qui a aussi la responsabilité de s'occuper des aéroports qui doivent recevoir des avions. Et quand vous connaissez, quand vous voyez les fréquences de vols qui sont fréquentées au niveau des Goma, c'est vraiment un aéroport qui doit rester dans la catégorie des aéroports internationaux. Mais est-ce que le gouvernement a pris soin de pouvoir vraiment tenir compte de tout ça? Et aujourd'hui, on doit y réfléchir parce qu'il y a eu mort d'homme. C'est comme ça que nous disons. Avec ce qu'il y a eu comme mort d'homme, ça dégage la responsabilité du gouvernement dans ce qui venait d'arriver, parce qu'on devrait déjà tenir compte. Nous sommes au mois d'avril, le budget a été déjà voté. Quand vous êtes écouté dans le budget de 2007, il y avait quelque chose qui était prévu pour l'aéroport de Goma. Oui. Quand vous voyez 2008, il y a tout ce qui a été prévu. Mais nous disons, pourquoi ne pas avoir privilégié par rapport à tout ce qu'il y a comme fréquence de vol au niveau de Goma, et c'est la frontière, et il y a des navettes importantes, on doit tenir compte de tout ça. Et on a même dit, comme tu venais de le dire, le DCNF, là, il avait été déjà interdit combien de fois l'Assemblée nationale a fait des recommandations au niveau du gouvernement. Et pourquoi le gouvernement doit continuer à s'entêter? Pourquoi il doit continuer à être complice dans tout ce qui nous arrive comme dégâts? Nous avons des souvenirs de Kinshasa Nyasuka, maintenant avec ce qui se passe à Goma, mais ça fait vraiment de la peine de constater une certaine irresponsabilité du gouvernement afin de dégager, de prendre en compte les aspirations de notre peuple.
Oui, justement parce que Martin Moukonkolé, en principe nous sommes à la fin de la première partie de cette émission parce que c'est une émission exceptionnel, donc deux sujets dans cette émission. Mais pour boucler cette émission avec vous deux, donc nos premiers invités de cette première partie de cette émission, vous, Martin Moukonkolé et Julien Paloukou, gouverneur, juste un mot, parce que vous dites que le gouvernement doit prendre des mesures. Concrètement, quelles sont ces mesures que le gouvernement doit prendre pour sécuriser l'espace aérien congolais, concrètement?
Vous savez, il y a une réglementation. Nous avions demandé à son temps-là de pouvoir donner des moyens à la RVA, qui a des compétences au niveau de la RVA, qui pouvait nous faire des propositions concrètes. Mais nous regrettons que le gouvernement, au lieu de s'intéresser à des techniciens congolais que nous avons, qui ont été formés par ces pays, qui connaissent bien les difficultés et les réalités de la gestion de notre espace aérien, on arrive même à accepter qu'on puisse signer des contrats de gestion avec l'aérien. Voilà tout ce qui est à la base, c'est-à-dire qu'il y a une certaine complicité.
Donc il faut donner des moyens à l'aérien.
Il faut donner des moyens à l'aérien parce que nous avons des compétences et des capacités.
Ouais.
Et il faut aussi que les gouvernements comprennent que nous avons tout intérêt de pouvoir aménager les différents aéroports dans notre pays pour sécuriser les peuples.
Merci beaucoup Martin Moukonkolé. Merci parce que c'est là que nous nous arrêtons avec vous pour cette première partie de l'émission. Nous allons prendre Julien Paloukou aussi pour conclure avec lui. Monsieur le gouverneur, est-ce que il suffit de donner des moyens à la RVA pour que notamment l'aéroport de Goma soit réhabilité et que peut-être cela puisse éviter des crashs?
Je pense que la question c'est d'abord toute la politique nationale parce que les crashs que nous avons connus a créé suffisamment de victimes et que donc il faudrait que toute la nation se mobilise pour que rapidement nous puissions trouver des réponses rapides aux problèmes qui se posent. Mais je sais par ailleurs qu'il faut beaucoup de choses pour ce pays. Il faut qu'on puisse appuyer la RVA, il faut qu'on puisse exécuter certaines données qui sont dans les budgets parce que ce qui est arrivé à Goma est arrivé plusieurs fois dans le pays. Je suis convaincu que le gouvernement est en train d'assainir l'espace aérien congolais et que donc l'aéroport de Goma attend de bénéficier dans les tout prochains jours de l'appui du gouvernement dans le sens de la réhabilitation de l'aéroport de Goma.
Merci beaucoup Julien Paluku et merci surtout d'avoir accepté de participer à cette émission qui met, c'est avec vous que nous mettons fin à la première partie de cette émission Dialogue entre Congolais. La deuxième partie, je vous l'ai dit, nous changeons aussi de sujet, c'est exceptionnel évidemment. Rapport de la mission d'enquête de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo sur les fosses communes, c'est le thème de la deuxième partie de ce Dialogue entre Congolais. Que dit ce rapport d'enquête? Nous recevons pour en parler Dieudonné Pambuntima, les ministres provinciaux du Bas-Congo chargés de l'information, de la justice et des droits humains. Nous avons aussi comme invité le président de cette commission d'enquête, le député provincial du Bas-Congo, Philippe Pakou Mapangula, et Maître Foula, lui, il est avocat de l'Emondaseni.
Dialogue entre Congolais. Vous pouvez encore participer à cette émission en téléphonant au 081 89 066 78 ou encore par SMS au 081 05 15 778.
Voilà, que dit le rapport d'enquête de la mission chargée de vérifier l'existence ou non des fosses communes dans le Bas-Congo? D'après le rapport de cette mission, des corps, la mission a été, diligentée au niveau du Bas-Congo, c'est, comme je l'ai dit, c'est pour vérifier l'existence des fosses communes. Et corps, j'étais entre les villages Lunga, Vassa et Manterne au Bas-Congo, aucun corps n'a été trouvé dans la fosse commune suspectée. Toutefois, selon ce même rapport, le lieu suspecté d'être une fosse commune a été violé, effaçant ainsi les traces qui pouvaient faire avancer cette enquête. Autre élément de ce rapport, dans le condensé que nous propose notre confrère Claude Chalda.
La mission d'enquête chargée de vérifier l'existence ou non des fosses communes au Bas-Congo affirme n'avoir trouvé que de la braise dans le trou creusé entre les villages de Lungavassa et Manterne au Bas-Congo. Toutefois, ce rapport d'enquête, dans sa page 4, fait état de la découverte dans ce même trou par des éléments de la Croix-Rouge d'une membrane humaine. Membrane humaine reconnue par le docteur Mabiala, médecin légiste, et par la Croix-Rouge comme étant la peau de la plante de pied d'un être humain. Ce morceau de chair est actuellement examiné dans la ville de Boma. Par ailleurs, ce rapport relève toujours dans sa page 4 une odeur nauséabonde difficile à supporter qui s'échappait du trou creusé. Il y a également été trouvé une membrane de cache-nez. Autre fait à relever, c'est que les rapports d'enquête mettent en cause la police nationale congolaise qui n'a pas sécurisé le lieu suspecté. Requête pourtant adressée aux autorités politico-administratives du village de Monterne. Dans la page 3 du dit rapport, le procureur de la République qui conduisait cette opération d'exhumation, de même que toute l'équipe d'enquête, a fait un constat d'amer au lieu suspecté, préalablement identifié et photographié. L'endroit en question ne correspondait plus à l'endroit préalablement visité et photographié par cette même mission d'enquête. Cet endroit avait donc été violé. C'est ainsi que cette mission d'enquête recommande la suspension et la traduction devant la justice des autorités politico-administratives de la ville de Boma et du village de Monterne pour besoin d'enquête. Motif, complicité manifeste dans la violation du lieu suspecté et retention d'une information dangereuse pour la santé et la morale collective. Car l'endroit suspecté se trouve à côté d'un point d'eau qu'utilise la population de cette contrée.
Voilà, c'était là Claude Kianza. Nous revenons donc avec nos invités. Je rappelle, Dieudonné Pambuntima, vous êtes ministre provincial du Bas-Congo, chargé de l'information, justice et droits humains. Bonsoir.
Bonsoir.
Voilà, vous venez de suivre cet élément de Claude Kianza, en fait, un élément qui a été puisé dans le rapport de la mission effectuée par une mission donc de l'Assemblée provinciale de votre province, le Bas-Congo. Comment vous réagissez au niveau du gouvernement provincial sur le rapport justement de cette mission de l'Assemblée provinciale?
Oui, merci beaucoup pour avoir fait encore une fois de plus appel à moi. Donc, il a dit tout simplement qu'à propos de Manterne, on parle tantôt charnier, tantôt de fosse commune. Parce que je sache, moi, le charnier est un lieu où l'on déposait à l'époque des ossements des morts.
Allô? Dieudonné Pambou? On a perdu Dieudonné Pambou, c'est dommage, mais je sais qu'on va s'attiger pour le retrouver. Philippe Pakou Mapangula, vous êtes député provincial du Bas-Congo et président de la commission d'enquête. Bonsoir Philippe.
Bonsoir monsieur Jolie.
Donc voilà, vous venez de suivre, évidemment, il n'a pas fini sa réaction, le ministre provincial de l'information. Qu'est-ce qu'on pouvait dire d'abord, après ce qu'il vient, lui, de déclarer, en fait, en réagissant au travail que vous avez effectué?
Bon, je crois que je n'ai rien retenu. Il n'a pratiquement pas réagi. Il a commencé par depuis ça. Bon, il aurait pu continuer, je crois que j'allais réagir après. Mais pour moi, j'ai suivi le résumé de notre rapport. C'est un rapport d'une commission d'enquête. Une commission d'enquête équilibrée, composée de 6 députés, 3 de la majorité, 3 de l'opposition. Et les députés sont les représentants du peuple. Nous n'avons pas intérêt à tromper parce que nous sommes que des porte-parole du peuple.
Oui, mais votre rapport, finalement, on n'arrive pas très très bien à comprendre. Ça, c'est l'avis aussi de beaucoup de gens. Finalement, qu'est-ce qu'on peut retenir de ce rapport? Oui ou non, il y a eu fausse commune au Bas-Congo dans l'affaire BDK?
Alors, vous savez, quand on mène une enquête, on doit aboutir jusqu'au bout. Au départ, effectivement, au départ, selon les indications de la même population, indications contenues dans leurs lettres anonymes qu'ils ont adressées au chef de l'agglomération, indications d'une fausse commune. L'enquête menée, quand nous sommes arrivés au bout de notre enquête, compte tenu de la violation, il est clair qu'on ne peut pas affirmer maintenant que nous avons trouvé des corps dans ce trou. Mais vous lisez les rapports. Nous trouvons simplement que les autorités locales n'ont pas respecté le consigne. Ils auraient pu permettre peut-être à la population de retrouver ce que elle déclarait. Mais pour nous, nous avons retenu qu'il y avait négligence manifeste de la part de ceux qui étaient censés sécuriser l'endroit. C'est pourquoi nous trouvons que l'autorité locale doit être sanctionnée. Il y a trop de laxisme au niveau de la territoriale.
Voilà. Puisqu'on vient de retrouver Dieudonné Pambou Ntima, vous, Philippe Pakou, vous, président de la commission d'enquête, vous dites qu'il y a eu une négligence au niveau des autorités politico-administratives, donc de Manterne et au niveau de Boma, pour lesquelles vous avez d'ailleurs sollicité leur suspension de la part du gouvernement provincial. Monsieur le ministre provincial Dieudonné Pambou Ntima, vous étiez en train de donner votre réaction au rapport élaboré par cette commission d'enquête de l'Assemblée provinciale.
Oui, je disais que à propos de Manterne, on parle tantôt de Châtenier, tantôt de Fosse Commune. Bon, à ce que je sache, moi, il est question de dire que pour le Châtenier, c'est un lieu où l'on déposait des ossements, des morts, n'est-ce pas? Il fait aussi un lieu où sont entassés des cadavres. Par exemple, de charnières, de camps, de concentration. Et tandis que la fosse commune, comme vous le savez, est définie comme un trou creusé dans le sol et aménagé. Vous voyez, par fosse commune, par exemple, on peut entendre une fosse où sont déposés ensemble plusieurs cadavres.
Oui, et monsieur le ministre.
Ce que j'ai vu là, oui. Si on entend parler de ce rapport, bon, je ne vois pas qu'on ait découvert un trou qui puisse contenir au-delà d'un corps ou de deux corps.
Monsieur le ministre, excusez-moi, est-ce que d'abord vous avez reçu une copie de ce rapport, ou du moins ce rapport de la part de la commission d'enquête? Est-ce que vous l'avez reçu au niveau du gouvernement provincial?
Recevoir officiellement, peut-être pas, mais nous avons tous les éléments qu'il faut pour ce rapport.
Quand vous dites peut-être pas, c'est-à-dire que la commission ne vous l'a pas donné?
Bon, après que je sache, nous n'avons pas encore discuté de ça comme tel au sein du gouvernement provincial. Parce que ça ne nous est pas encore transmis officiellement, du moins à ma connaissance, mais nous avons les éléments de ce rapport.
Oui, donc le rapport ne vous est pas transmis officiellement. Est-ce que vous avez suspendu, comme l'a demandé la commission d'enquête, est-ce que vous avez suspendu les autorités locales de Boma et de Manterne, accusées de n'avoir pas bien surveillé l'endroit où, qui était suspecté de contenir une fosse commune?
Vous voyez, nous sommes dans un processus jusqu'à présent, et moi je pense qu'on n'exécute pas automatiquement une sanction lorsque c'est demandé. Il faut d'abord attendre qu'on ait des éléments beaucoup plus probants pour arriver à exécuter une instruction qui vient de l'Assemblée provinciale.
Voilà. Philippe Pakou Mapangula, vous venez de suivre là le ministre provincial de l'information dans votre province, du Bas-Congo, hein, information, justice et droits humains. D'après lui, le rapport de votre commission ne lui est pas encore parvenu. Pourquoi vous ne déposez pas votre rapport au niveau du gouvernement provincial du Bas-Congo?
La procédure d'une assemblée provinciale, d'une assemblée nationale ou provinciale, elle est un peu lente, hein, parce qu'on ne peut pas transmettre un document lorsque la plénière n'a pas encore approuvé. Effectivement, la plénière a approuvé. À l'heure qu'il est, nous avons coulé certaines propositions en termes de recommandations. Ces recommandations sont déjà faites. Il reste l'administration. Il faudrait que le président signe la lettre de transmission. Je crois qu'au plus tard demain, ils recevront bien notre courrier. C'est-à-dire un certain nombre de recommandations qui confirment ce que la plénière a décidé. Là, il n'y a pas de problème. C'est un processus administratif. Ça prend un peu de temps, mais 2-3 jours, ça va bien arriver.
Oui. Maître Poula, parce que vous êtes aussi avec nous dans cette émission. Bonsoir, Maître Poula.
Bonsoir, Monsieur le journaliste.
Oui, je rappelle, signal, que vous êtes avocat de Néo-Mondanceni. Vous intervenez dans cette émission parce qu'il y a d'abord, au niveau de l'actualité, c'est connu qu'il y a un procès qui a démarré au niveau de Mbandangungu sur les adeptes de Bundudia Congo qui sont impliqués dans les derniers événements qui ont opposé le Bundudia Congo à la police. Et là, il s'agit des fosses communes où, entre autres, des adeptes de Bundudia Congo seraient ou auraient été ensevelis. Qu'est-ce qu'on peut dire, vous, à ce niveau, déjà au niveau de ce qu'on peut appeler une sorte de polémique au niveau de ces fosses communes, d'après les interventions de Dieudonné Pambusima et Philippe Akuma Pangula?
Monsieur le journaliste, je viens de suivre les deux autorités. Je connais le ministre de la Justice provincial. Je connais M. Pangula. Celui-là, surtout, quand il était maire de Boma, on a travaillé avec lui dans le cadre de l'histoire de Bundo Congo. On a fait Mwanda, Nkandi, Boma, avec l'ensemble.
Donc, vous connaissez très bien.
Je connais cette personne-là. Et je pense que M. Pangula conduit la mission parlementaire à Manterre. C'est un homme très sérieux, je le connais bien. Ils ont fait des constats, ils sont allés dans ces constats. Je constate aussi que dans cette mission-là, dans cette commission-là, il y a aussi un homme très sérieux, je connais. Les autres ne le sont pas moi. Mais en tout cas, ça aussi, était avec nous, avec M. Pangula, c'est l'honorable Nsimba Ndengula Léonard.
Oui, qu'est-ce que vous voulez dire par là, quand vous
dites cette personne? Donc, c'est un homme qui, quand on parle de faire des constats sérieux, et le procureur lui-même est l'homme qui a conduit la mission. Parce que j'ai pu comprendre ce rapport-là. On a dit que les honorables députés, c'est la mission qui vient de Matadi, n'avaient que le rôle d'observateur. Et que le travail était un travail technique. Il s'est demandé de m'expertise. C'était le procureur lui-même qui menait cette opération-là. Le procureur s'est entouré de médecins légistes. De l'infirmier titulaire de la zone de Lovo, la zone de santé de Lovo, et j'ai vu aussi que dans son groupe, il y avait des éléments de la Croix-Rouge. Mais je pense que ce sont des hommes qui sont au fait de la chose.
Donc, d'après vous, Maître Poula, ce rapport est un rapport crédible, si on vous comprend bien.
Pardon?
Est-ce que vous voulez dire par là que ce rapport de la commission d'enquête de l'Assemblée provinciale du Bas-Congo est un rapport crédible?
Mais c'est pas aucun rapport crédible, parce que le procureur dit que lui a donné le photo de ce site avant le jour de l'exhumation. Et le jour de l'exhumation, ils ont constaté que le terrain avait été visité, avait été violé, le site avait été violé. Il avait le photo en main. Donc cet homme-là, pourquoi on ne peut pas croire à cet homme-là? Le médecin de l'exhumation a été sur place. C'est très bien que le charbon de braise dans un four ne dégage pas une odeur de nauséabonde. Et il semble que là-bas, c'est que de la tous ont dû se fermer les narines, boucher les nez, et ils ont même tout le corps été le terrain des hommes de la Croix-Rouge qui ont pu tenir. Et la membrane humaine qu'on a pu trouver sur place. Moi, je pense que le médecin me dit qu'il était là, un homme bien placé. Et je vous assure, monsieur le journaliste, en interne, si un villageois a fait un four de braise quelque part, c'est tous les villageois qui vont savoir que ce four est allé. Et un four de braise, quand il brûle, entre le bois qui doit brûler et la terre qu'on a dessus, il y a des feuilles qui vont couvrir des merdes. Et dans un trou, lorsque le bois brûle, le braise prend la garde la forme du bois. Mais je ne peux pas dire que c'est le braise qu'on a trouvé là-bas, si c'était le type de braise. Et pourquoi que vous dégagez ici de la bombe? Moi, je pense, monsieur le journaliste, que les personnes qui étaient là, qui ont fait ce constat, sont des personnes sérieuses. Et le président de la République lui-même, c'est un expert dans ce domaine. Je crois qu'il a fait le constat et on peut attendre le rapport qui va communiquer à l'Assemblée provinciale. Le gouvernement provincial, bon, c'est normal. Voilà. Ils ont appris ce bruit depuis longtemps, mais est-ce qu'ils avaient seulement organisé quelque chose pour aller vérifier la situation?
Voilà, ça
c'est. Tout, il fallait que l'Assemblée provinciale le fasse.
Voilà, c'est la question qu'on peut poser directement à Dieudonné Pambou Ntima, monsieur le ministre provincial du Bas-Congo, de l'information, justice et droits humains. Pourquoi vous n'avez rien fait, selon Maître Foula, pourquoi vous n'avez rien fait pour essayer de vérifier, parce que vous venez de dire tout à l'heure que vous aviez tous les éléments d'information concernant la mission d'enquête effectuée par une équipe de l'Assemblée provinciale?
Non, moi j'ai dit que les informations qui ont été livrées par l'Assemblée provinciale, par la commission d'enquête, nous en sommes informés, parce que leurs audiences sont publiques, hein. Et ensuite, ils ont fait un rapport qui est sorti dans le journal de Cité africaine, la mission d'enquête sur les fosses communes à Lungavassa et à Materne. Mais étant donné que ce ne sont pas de voies officielles, je ne peux pas considérer cela comme éléments qui puissent me permettre de réagir.
Mmh.
Bon, quant à savoir si il faut donner raison à qui que ce soit, moi je ne donnerai raison à personne. Il n'y a que la justice qui peut trancher et le dossier se trouve devant, comme c'est bien dit, le parquet, je dirais chez le procureur de la République de Boma. Nous attendons que la justice se prononce. Et puis, je pourrais aussi dire que aucune institution ne peut obstruer à une autre institution. Donc, nous attendons que nous ayons les éléments officiels de la part de l'Assemblée provinciale, le gouvernement provincial qui a aussi diligenté une enquête dans ces lieux-là.
Vous venez examiner le tout. Donc, vous venez de diligenter une enquête maintenant, là?
Non, pas maintenant. Ça s'est déjà fait depuis longtemps.
L'entente, c'était quand
Mais immédiatement, à la même période que l'Assemblée provinciale.
Vous pouviez peut-être le faire avant, pourquoi vous avez attendu l'Assemblée provinciale?
Mais il faut que nous ayons des informations avant de réagir.
Il y a Bernard qui nous écrit, lui, depuis Kinshasa. Lui, il pense qu'il faudrait commencer par interpeller votre gouvernement sur ce qui s'est passé dans cette zone de Boma et Manterne.
Bon, mais chacun est libre d'émettre ses avis comme il veut, il est citoyen congolais.
Voilà, chacun est libre. Philippe Pakouma Pangula, finalement, comment mettre fin à cette polémique? Est-ce qu'il faut attendre que vous déposiez votre rapport, parce que vous venez de dire que vous ne l'avez pas encore fait au gouvernement provincial?
Bon, pour nous, il n'y a même pas de polémique. Il n'y a pas de polémique si vraiment on a un esprit scientifique. D'abord, on reconnaît la séparation de pouvoir entre institutions, nous respectons mutuellement. Nous pouvons seulement remarquer à l'exécutif provincial qu'il y a un laxisme au niveau des autorités de la territoriale. Parce qu'effectivement, depuis le 17, si le chef d'agglomération ou les responsables des services spécialisés avaient informé la hiérarchie, l'Assemblée n'aurait pas pu entrer en fonction de ce dossier. Demain, on va transmettre nos recommandations au niveau du gouvernement provincial. Il leur appartiendra de tirer les conséquences de cela, parce qu'après tout, mort d'homme ou pas, quand un endroit est pollué, ne fût-ce que pour les maladies hydriques, on pouvait, disons, protéger les populations qui ne puissent pas s'abreuver d'une eau polluée, par exemple.
Oui, quand vous dites que vous déposez demain, c'est-à-dire ce mercredi?
Oui, ce mercredi, parce qu'en fait, la lettre est déjà faite, hein, parce que le président est un peu malade, il s'est déplacé, mais avant de partir, il avait signé la lettre de transmission, donc demain, mes services du courrier vont déposer officiellement ce courrier à eux d'exploiter au Conseil des ministres, parce qu'il y a des responsabilités tout à fait flagrantes au niveau de l'autorité locale. C'est pas sérieux, parce qu'il n'appartient pas à un gouverneur. Si c'est pas au gouverneur d'aller, par exemple, vérifier si à un endroit donné, on a senti des odeurs et des adorables ou pas, ou bien s'il existe une fosse commune ou pas. Il y a des autorités, il faut donc que chacun des Congolais, à quelque niveau de responsabilité que ce soit, que chacun s'assume. Et ce sont ces gens-là qui ne s'assument pas, qui sont un peu partout, et bien se sentent un peu frustrés.
Mais qu'est-ce que vous attendez exactement du gouvernement provincial en déposant ce rapport? Qu'est-ce que vous attendez exactement du gouvernement provincial?
Bon, qu'ils exploitent selon les droits, naturellement. D'abord, il y a des fautes administratives, l'extension de l'information. Si ce n'est pas punissable, et bien c'est l'impunité qui continue.
Mais il n'y aura pas de changement, il n'y aura pas de développement. S'ils ne veulent pas exploiter, il y a encore des zones d'ombre, on attend un peu que le procureur puisse nous faire parvenir ses conclusions. À un moment donné, peut-être que si eux ne veulent pas sanctionner ceux qui ne veulent pas travailler à la base, nous pourrons leur, plus tard leur demander des explications pourquoi ils laissent passer comme ça les choses à la base. À qui ça peut profiter?
Voilà. Maître Poula, et vous, vous espérez quoi de ce processus entamé par l'Assemblée provinciale, notamment le dépôt ce mercredi de ce rapport de façon officielle?
Ah, monsieur le journaliste, pour moi, je pense que le rapport de l'Assemblée provinciale, de la commission parlementaire qui est défendue sur le terrain, avec monsieur le procureur, c'est le point de départ d'une grande enquête. Parce que ce rapport contient des éléments trouvés sur le terrain. Trouvés sur le terrain, et il y a même des gens qui ont témoigné, entre autres, je pense que c'est Outudi, un élément de la Croix-Rouge, M. Outudi Patrick, qui a été sur le site à 22h, je pense, 45, et qui a été chassé par deux policiers, qui l'a reconnu, ce sont des policiers de Manterne, qui lui ont dit que d'autres personnes doivent venir ici, parce que c'est une vie qui doit être surveillée. Or, la police de Manterne me dira que c'est seulement le 2 avril, à 6h du matin, qui recevra l'ordre de sécuriser cet endroit-là. Ça signifie que la nuit, le policier était là et l'homme de la Croix-Rouge les a aperçus. Ça, c'est le 1. L'homme de la Croix-Rouge dit aussi qu'au retour, à l'Azure Bomba, il a trouvé le véhicule de la police hein, avec une pick-up de couleur blanche, là au carrefour du Manterne. Et là-dedans, il a trouvé les choses de cité qu'on n'a pas pu retrouver dans la commission parce que l'a cherché, il ne l'a pas trouvé chez lui à la maison. Voilà le raisonnement d'enquête. Vous considérez encore que il y a un journaliste de la CPE, je pense que monsieur va tout le temps quelque chose comme ça, un journaliste de la CPE attaché à l'Assemblée provinciale, qui a enregistré un élément sonore. C'est une surprise au parking de Boma à Kirkanda, de chauffeur taxi qui était en train de raconter l'histoire que de passage à 23h, ils avaient trouvé à cet endroit-là, au site qui devait être sécurisé, on a trouvé deux véhicules de la police sur place. Donc voilà des éléments qui vont permettre, monsieur le procureur, d'interroger et même l'Assemblée provinciale, d'interpeller des personnes qui doivent faire des déclarations. On doit savoir ce qui se passe réellement.
Ouais, voilà, c'est pourquoi donc vous dites que c'est le début d'une grande enquête. Oui, début d'une grande enquête, et pour vous, Dieudonné Pamboutima, ministre provincial du Bas-Congo, puisque vous avez aussi annoncé une enquête du gouvernement provincial, elle se termine quand cette enquête?
Bon, mais je ne sais pas moi quelle durée ça prend, mais je voulais seulement préciser que le tout qui a été découvert en terme, c'est 12 cm de haut et 60 cm de large et 180 cm de long.
Là, votre réseau s'est un peu altéré. On a des problèmes avec vous, monsieur le ministre. Vous allez peut-être vous déplacer un peu parce qu'on tend vers la fin de l'émission, mais on va vous demander d'essayer de vous déplacer pour qu'on puisse mieux vous suivre. Oui, en un mot, vous disiez quoi? Oui, maintenant ça va. Vous disiez quoi en un mot, s'il vous plaît?
Je dis que le tout qui a été découvert en Manterne n'a pas de dimension de charnier. C'est tout juste 80 cm de haut, 60 cm de large et 180 cm de long.
Est-ce que ça
peut contenir une grande seule corps ou alors tout au plus deux corps?
Est-ce que c'est déjà le résultat de votre enquête?
Non, ce n'est pas ça le résultat de notre enquête, mais en tout cas, ce qui a été découvert, c'est le choc. Et comme je l'ai dit, il n'y a que la justice qui peut trancher.
Oui, la justice peut trancher. Il y a Ilobakwe de Lubumbashi au Katanga qui dit qu'il faudrait finalement, pour mettre fin à cette polémique, une commission d'enquête internationale. Est-ce que cela vous arrangerait, monsieur le ministre provincial?
Mais nous n'avons rien à cacher. Et la MONUC était là. La MONUC, ce n'est quand même pas une institution qui est dirigée par le Bas-Congo.
Voilà, on va s'arrêter par là. Je rappelle que nous avons eu deux sujets dans cette émission un peu spéciale dialogue entre Congolais. Nous avons commencé par le premier sujet, donc le crash d'avion à Goma. Vous avez suivi dans le débat, dans cette première partie de l'émission, Julien Paluku, gouverneur de la province du Nord Kivu et Martin Mkonkole, un député national de l'opposition. Et là, nous venions donc d'aborder le rapport sur l'existence ou non des fosses communes au niveau du Bas-Congo. Vous avez suivi Dieudonné Pamboutima, ministre provincial du Bas-Congo, chargé de l'information, justice et droits humains. Philippe Paluku, Philippe Pakou Papaloukoumé Pakou Mapangula, député provincial du Bas-Congo et président de la commission d'enquête, et Maître Poula, avocat de Némanda Nsemi. C'est donc par ici que nous mettons fin à cette émission Dialogue entre Congolais. Alain Goy était à la mise en onde, Kéline Kouté, Claude Kianza et Roger Guy Roger Nyampala. Voilà, c'est l'équipe qui a concouru donc à la réalisation de cette émission. Merci de nous avoir suivis. Jean-Claude Toumakamanga est au micro.
Cette émission sera diffusée demain matin sur nos antennes à partir de 4h45 sur Kinshasa et vous pouvez la retrouver sur notre site internet.